Là, vous allez nous entendre, n'est-ce pas?
Vous allez m'entendre, oui.
Ça, c'est... Est-ce qu'on
peut baisser un peu l'éclairage?
Il y a des mystères. On peut mettre une petite lumière tamisée, histoire d'avoir une atmosphère un peu plus intime.
Mais j'ai un peu peur que ça encourage l'endormissement.
C'est un peu brutal, là, peut-être, non? Non, c'est bien.
C'est bien.
Le premier qui ronfle, ou la première, bien sûr. Attention.
Voilà, donc j'en étais au quatrième cours où nous allons interroger cette équation des circonstances et le contexte dans lequel ces trois compères se sont rencontrés. Et finalement, dernier cours, on va faire la démonstration pourquoi E égale MC2. Donc commençons par le début, E. Alors, je pense que tout le monde sait que E représente l'énergie. Mais qu'est-ce que l'énergie? Alors, l'énergie est un mot plurivoque qui est commun dans la vie courante. On peut être plein d'énergie, au contraire, on peut manquer d'énergie. Souvent, on agit avec l'énergie du désespoir. Parfois, on résiste avec toute son énergie. Je vous fais une présentation avec énergie. La énergie, je pense que tout le monde peut comprendre dans ce contexte ce qu'est l'énergie. L'énergie est synonyme de vivacité, d'élan, de dynamisme, mais aussi de force, de puissance. Alors là, les auditeurs attentifs et assidus de Physique pour tous me disent attention, force, puissance, énergie ne sont pas synonymes. Ok, tournons-nous un peu vers la physique. Alors plus près de la physique, on sait que l'énergie, depuis environ 200 ans, disons, au début, juste après la révolution industrielle du 19e siècle, l'énergie a colonisé notre quotidien. Nous dépendons de l'énergie pour notre confort. L'énergie facilite les transports. L'énergie alimente l'industrie qui nous manufacture plein d'objets dont nous ne saurions plus nous passer. Et quand soudain nous manquons d'énergie, il faut songer à une transition énergétique en invoquant des énergies renouvelables, des énergies durables, des énergies fossiles, des énergies positives. Et tout cela, bien sûr, en maîtrisant la facture énergétique, tout en évitant de creuser la fracture énergétique. Donc, je vous dis un peu ce charabia pour vous montrer que l'énergie est présente dans notre quotidien, et on comprend ce qu'est énergie, à peu près. Bon, maintenant, un peu plus difficile, quand les physiciens s'en mêlent avec leur charabia, eux, quand ils nous disent, à l'échelle de l'univers, l'énergie peut être noire, ou alors le vide. Le vide est plein d'énergie. Bon, même là, on comprend à peu près dans ce contexte ce que veut dire énergie. Mais si je prends le mot énergie, et je l'enlève hors de tout contexte. Est-ce que vous sauriez définir ce qu'est l'énergie, hors de tout contexte? Mais d'abord, est-ce qu'il y a une énergie ou des énergies? Alors, si on regarde en physique, il y a toute une liste des choses, des énergies gravitationnelles, cinétiques, thermiques, élastiques, etc., etc. Alors donc, y aurait-il plusieurs énergies? Non. Il y a une énergie. Et là, la nature essaye de nous embrouiller un peu. En fait, nous nommons différemment l'énergie en fonction de la forme sous laquelle l'énergie nous apparaît. Donc, une seule énergie. Puisqu'il n'y a qu'une seule énergie, on peut y aller et on peut aller chercher dans le dictionnaire quelle est la définition du mot énergie. Donc, j'ai retenu la définition du mot Larousse, je vous dis tout de suite, les définitions d'énergie ne se valent pas toutes. Celle que j'ai préférée, c'est celle du Larousse. Alors, on peut la lire ensemble. C'est une grandeur caractérisant un système physique, gardant la même valeur au cours de toutes les transformations internes du système et exprimant sa capacité à modifier l'état d'autres systèmes avec lesquels il entre en interaction. explication. Alors d'abord, l'énergie, c'est pas un objet, c'est pas une chose qu'on peut décrire. L'énergie, c'est une quantité. C'est une grandeur qui caractérise un système. Ça veut dire l'énergie, on peut représenter par un nombre auquel on ajoute le mot joule pour dire que ce nombre représente une énergie. Donc c'est une quantité. Ensuite, et ça, je pense que ceci est la part la plus importante du mot énergie, garde la même valeur au cours de toutes les transformations internes. L'énergie est une quantité qui se conserve. Dans tous les processus de la nature, vous aurez toujours, toujours autant d'énergie après le processus qu'il y en a eu avant. On ne peut ni créer ni détruire l'énergie. Et finalement, l'énergie, ça sert à quelque chose, ça fait quelque chose. Alors bien sûr, on pourrait s'arrêter là parce que presque tout est dit. Mais pour comprendre comment on en est arrivé à cette définition et surtout pourquoi, rien ne vaut un petit voyage dans le temps. C'est la meilleure façon de comprendre pourquoi les idées, les concepts et les lois sont introduits dans la physique. Alors commençons ce voyage dans le temps. Alors sans surprise, je pense, on va aller tout de suite dans l'Antiquité. Donc on est environ à 330 avant notre ère. Aristote a inventé le mot énergie. Et il le définit de façon très succincte, de la façon suivante, une activité interne d'une puissance sous l'effet d'une autre et pour une fin. Un peu plus compliqué que Larousse. Néanmoins, il dit à peu près la même chose. L'énergie est quelque chose d'interne à toute chose, à tout être. Être dans le sens tout ce qui est, pas l'être vivant, c'est tout ce qui est, possède en propre et de façon interne de l'énergie. Cette énergie ne s'exprime que sous l'effet d'une action extérieure. Et pour faire quoi? Pour faire quelque chose. Alors bien sûr, rien de nouveau, un petit exemple. Aristote parlait de dynamique, donc du mouvement des objets. Donc oubliez tout ce qui est chaleur, thermodynamique, etc. Il parlait des mouvements. Et pour Aristote, tout être avait un état de repos qui lui était propre. Prenez une pierre. Une pierre est constituée des deux éléments lourds, l'eau et la terre. Et l'état de repos de la pierre, c'est de reposer immobile sur le sol. Là, l'énergie, en attendant, elle n'apparaît nulle part. Si maintenant je donne un coup de pied dans ma pierre, je déloge la pierre de son état de repos, et l'énergie est là pour immédiatement ramener la pierre vers son état de repos, c'est-à-dire la pierre va retomber au sol. Au contraire, pour les éléments légers, la fumée par exemple, qui est constituée des éléments légers, l'air et le feu, l'énergie va mener la fumée vers les airs où se trouve l'état de repos du feu, de la fumée. Bon. On est quand même dans l'Antiquité. Donc, reconnaissons Aristote est vraiment un génie, le plus grand philosophe de son époque, mais c'est un génie de l'Antiquité. Donc, c'est un bon début, mais c'est loin d'être suffisant. Vous remarquerez qu'il manque quelque chose d'essentiel que j'avais dans la définition du Larousse, la conservation de l'énergie. Alors, malgré les choses très incorrectes que Aristote a pu raconter concernant toute la dynamique, vous savez que la seule philosophie qui a été enseignée pendant tout le Moyen Âge jusqu'à presque la fin de la Renaissance était la scolastique, qui était ce croisement entre la pensée d'Aristote et la théologie chrétienne. Alors, question, qu'a dit de plus la scolastique de l'énergie? Ben, absolument rien. Le seul usage qu'a fait la scolastique de l'énergie, c'est un usage dramatique. Ils ont utilisé l'énergie du feu pour faire taire. Notre cher ami Galilée. Vous savez, Galilée, c'est l'inventeur de la physique, c'est l'inventeur de la méthode scientifique qui va remettre au placard de l'histoire toute la pensée d'Aristote. Et à la fin de sa vie, il va écrire un livre intitulé « Discours et démonstrations mathématiques de deux sciences nouvelles ». Les deux sciences nouvelles, en l'occurrence, c'est la mécanique et la physique du mouvement, c'est-à-dire la dynamique. Et donc un ouvrage, je dirais, de référence sur les objets mécaniques et sur les objets qui bougent. Et que dit-il de l'énergie? Il ne dit rien. L'énergie n'est pas une chose utile chez Galilée. Donc nous pouvons passer à l'ouvrage de référence suivant. On va retrouver Isaac Newton, qui, à peu près 50 ans après l'ouvrage de Galilée, publie les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Un ouvrage fondateur de la mécanique et de la dynamique. Donc, ce que fait Newton, c'est reprendre les idées de Galilée, de Kepler et d'autres pour mettre, formaliser dans un cadre unique tout ce qu'on doit savoir sur la mécanique et sur la dynamique et rendre la chose calculable. Et comme toute théorie, il va démarrer sur trois principes. Alors je vous rappelle, un principe, c'est une chose qui n'est pas démontrable, qu'on va utiliser comme point de départ, et un principe va rester vrai tant que l'expérience n'aura pas démontré qu'il est faux, ou que l'expérience aura démontré que ce principe conduit à des choses fausses qui ne sont pas vues par l'expérience. Donc, quels sont ces trois principes? Vous les connaissez certainement. Premier principe, le principe de l'inertie. Tout objet reste dans son état tant qu'une force, qu'une action extérieure ne perturbe pas son état. Un objet qui est au repos restera au repos éternellement. Un objet qui est en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire qui va tout droit à une vitesse constante, gardera cette vitesse tant qu'il n'y aura rien pour modifier sa vitesse. Principe d'inertie. Premier principe. Deuxième principe. Pour ce deuxième principe, il va inventer quelque chose qui s'appelle la force. À nouveau, la force, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Retenez simplement que c'est un objet, un outil mathématique qui sert à faire des calculs. Et ça suffit. Ce qu'il nous dit, c'est que l'accélération d'un système va dépendre de la force à laquelle on soumet ce système et va être inversement proportionnelle à la masse du système. En d'autres termes, pour accélérer un objet, plus vous voulez l'accélérer, plus il faut pousser fort, et plus l'objet est massif, moins il accélérera. F égale M gamma, on a tous appris ça à l'école. Bien. Troisième principe, principe d'action et de réaction. Un corps soumet une force, un corps A soumet un corps B à une force. Inversement, le corps B soumet le corps A à la même force, la même intensité, sauf en direction opposée. À partir de ces trois principes, Newton arrive à développer toute une théorie sur la dynamique et sur le mouvement. Enfin, dynamique qui est le mouvement. Qu'en est-il de l'énergie? Newton n'en a pas besoin. Alors, est-ce que l'énergie est totalement oubliée? Presque. Mais pas tout à fait. Un contemporain de Newton, qui s'appelle Monsieur Leibniz, Gottfried Wilhelm Leibniz, fait, bon, vous savez que Leibniz était le concurrent le plus farouche de Newton. Ils sont battus très longtemps pour s'arroger la paternité d'une théorie, surtout du calcul infinitésimal, etc. Donc, Leibniz va oser une incursion dans l'énergie. Mais manque de peau, il va pas appeler énergie, il va l'appeler force vive. Et il va dire que la force vive, moi je pense que c'est quelque chose qui est égal à la masse du système multiplié par sa vitesse au carré. mv2. Bon, ça vous dire quelque chose, hein? Et ce que dit Leibniz, et je prends un petit extrait du discours de métaphysique, notez bien que c'est de la métaphysique que fait Monsieur Leibniz, il est bien raisonnable que la même force, alors quand vous lisez force, entendez énergie, c'est pas la force de Newton, la même force conserve toujours dans l'univers, la force d'un corps n'est pas diminuée qu'à mesure, etc. Ça veut dire, il est en train d'énoncer un prototype de la conservation de l'énergie. L'énergie dans l'univers est conservée. Bien sûr, l'énergie peut être transférée d'un corps à un autre, donc vous pouvez, un corps peut perdre de l'énergie, mais on va la retrouver dans l'autre corps. Donc il est en train de nous dire qu'on ne peut ni détruire ni créer de l'énergie. Donc on a fait un pas supplémentaire. Mais je vais m'intéresser à une personne que j'aime bien, qui est, alors il faut que je trouve son nom entier, Madame Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet. Alors cette dame, c'est une enfant, on dirait aujourd'hui une enfant prodige. À 12 ans, elle parlait, non seulement parlait, mais elle lisait couramment l'anglais, l'allemand, le grec ancien, le latin, 12 ans. Encouragée par son père, elle s'initie à la physique, et comme professeur, elle ne choisit pas les plus mauvais. Parmi ses professeurs, on trouve Fontenelle, Maupertuis. Donc c'est quelqu'un qui est très bien initié à la physique. Bon, anecdotiquement, elle se marie à 19 ans, son mari est très concerné par les affaires militaires. Bon, il ne veut pas dire qu'il néglige son épouse, mais il lui laisse beaucoup de liberté. Et à 27 ans, elle rencontre Voltaire. Voltaire revenait d'exil. Il était indésirable à Paris et elle l'accueille dans son château à Cirey, une petite île près de Troyes, où pendant 4 ans, ils vont travailler à populariser l'œuvre de Newton. Donc ils vont écrire quelques recueils de, on dirait aujourd'hui des recueils grand public, et Newton l'encourage à traduire les Principia de Newton, donc du latin en français. C'est d'ailleurs la seule traduction française des Principia qui existe à ce jour. Donc elle va traduire, non simplement traduire, mais aussi commenter pour faciliter un peu la lecture et la compréhension. Et donc ça, c'était un peu pour l'histoire, et je vais m'intéresser à un autre ouvrage qu'elle a publié avant les traductions des Principia. Il s'agit d'un manuel de physique qu'elle destinait à son fils et qui regroupe toutes les connaissances acquises en physique au XVIe et au XVIIe siècle, donc Kepler, Galilée, Copernic, Newton, etc. Ah, j'ai quand même un petit avertissement. Je ne suis pas en train de dire que vous avez devant vous un ouvrage de référence sur la physique au XVIIIe siècle. J'ai choisi cet ouvrage simplement plutôt comme un témoignage de l'état des connaissances en physique au XVIIIe siècle. Madame du Châtelet n'a rien inventé. Mais c'était intéressant de le suivre et surtout de lire quelques extraits qui nous concerne, puisque nous parlons aujourd'hui d'énergie. Lisons ensemble. On distingue la force morte ou force virtuelle et la force vive. La force morte consiste dans une simple tendance au mouvement, telle celle d'un ressort prêt à se détendre, et la force vive est celle qu'un corps a lorsqu'il est dans un mouvement actuel. Alors de nouveau, lisez force, entendez énergie. Ce n'est pas la force de Newton, c'est la force de Leibniz, l'énergie. Alors que nous dit-elle? Bon, qu'il y a deux forces, la force morte et la force vive. Aujourd'hui, on dira qu'on a l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. La force morte ou énergie potentielle, en fait, est l'énergie qui est liée ou qui est associée à une interaction. Au XVIIIe siècle, on connaît une interaction, l'interaction gravitationnelle. Donc l'énergie potentielle ou force morte de Madame du Châtelet, c'est l'énergie qui est associée à l'interaction gravitationnelle. Ensuite, il y a la force vive, c'est celle d'un corps lorsqu'il est en mouvement, quelque chose qui bouge, a une énergie qui est proportionnelle à la vitesse à laquelle le corps bouge. Donc, l'exemple classique d'énergie cinétique et énergie potentielle, la pomme dans l'arbre. La pomme dans l'arbre, tant qu'elle reste accrochée à l'arbre, a une énergie potentielle qui est liée à la gravitation. Vous mettez dans l'arbre quelque part dans le cosmos, loin de toute planète, où il n'y a aucune interaction gravitationnelle, l'énergie potentielle de la pomme est nulle. Lorsque la pomme se détache, elle tombe, c'est-à-dire elle va gagner de la vitesse, elle va transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique qui est reliée à la vitesse. Donc énergie potentielle et énergie cinétique. Un deuxième extrait de ce que je voulais ajouter, il reste quand même curieux pourquoi le mot énergie n'est pas utilisé et qu'on utilise cette notion de force qui, faut le dire, prête à confusion. Newton définit clairement ce qu'est une force et on nous parle de force vive et de force morte. Et pourtant, en 1717, donc du vivant de Newton, Jean Bernoulli, ce Suisse, c'est le premier d'une grande lignée de physiciens, de mathématiciens qui ont beaucoup contribué à la science, définit le mot énergie. Alors, j'ai pas vérifié, mais il semblerait que ce soit la première définition du mot énergie en physique moderne. L'énergie est le produit de la force de Newton cette fois-ci, appliquée à un corps, multiplié par le déplacement infinitésimal subi par ce corps sous l'effet de cette force. Alors là, tous vos cours de physique de première et terminale reviennent à la tête. Le travail, force fois déplacement. C'est pas de l'énergie. Bien que ce soit très relié. Et la confusion est d'autant plus grande que travail et énergie s'expriment avec la même unité, le joule. Donc le travail, on peut dire, c'est l'expression de ce qu'on voit de l'énergie. Mais retournons chez Madame du Châtelet avec un nouvel extrait qui est le suivant, un peu plus long. Quoique le mouvement varie à chaque instant dans l'univers, la même quantité de force vive s'y conserve toujours. Cette force qui est quelque chose de réel et qui dure comme la matière ne saurait être détruite ni produite à nouveau. Il vient dénoncer la conservation de l'énergie. On ne peut détruire ni créer de l'énergie. Et elle rajoute, si je reprends l'exemple de ma pomme, l'énergie potentielle, au début accrochée à l'arbre, a une certaine valeur, l'énergie cinétique est nulle. La pomme tombe, elle va perdre de l'énergie potentielle, puisque la hauteur au sol va diminuer, elle va gagner de la vitesse, Et c'est donc la transformation d'énergie potentielle en une énergie cinétique qui signifie la conservation de cette énergie. Alors bien sûr, c'est pas tout à fait exact, parce que la pomme, avec le frottement dans l'air, peut dégager de l'énergie thermique. Donc il faut tenir compte de toutes les énergies qui sont en jeu. L'énergie potentielle peut être transformée en énergie cinétique, en énergie de friction, etc., etc. Donc, néanmoins, le message clair, l'énergie se conserve, et si vous avez l'impression qu'elle se conserve pas tout à fait, il faut bien regarder où sont toutes les énergies. Et elle termine, et l'on peut tirer de là toutes les lois du mouvement. Ce qu'elle est en train de nous dire ici, c'est qu'on pour les lois de mouvement, donc toute la théorie de Newton peut être déduite en faisant abstraction des trois principes de Newton. Pas besoin des trois principes, il suffit de dire que l'énergie se conserve. Alors aujourd'hui, on dirait la chose de la façon suivante. L'énergie, la conservation de l'énergie veut dire qu'à tout moment, dans un mouvement, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle est une constante. Et je vous ai dit que l'énergie potentielle est associée à une interaction. Pour la pomme, l'interaction gravitationnelle. Mais vous pouvez choisir n'importe laquelle des interactions parmi les quatre qui existent. Si vous voulez déterminer la dynamique des particules élémentaires, il vous suffit de choisir l'énergie potentielle qui est associée soit à l'interaction forte, soit à l'interaction faible, soit à l'interaction électromagnétique. Donc vous voyez, on a ici quelque chose de tout à fait universel qui permet de construire une théorie de physique simplement en disant que l'énergie se conserve. Vous voyez comment la physique peut parfois être très simple. Simple, hein? À peu près. Bien. Alors, reste ce dilemme force et énergie. Alors, nous, on sait maintenant que force, ce que veut dire force, c'est une action externe d'un corps sur un autre. Ça, c'est une force. L'énergie, ça décrit un état d'un système et les transformations que peut subir ce système. Alors, il est curieux de prendre l'encyclopédie, donc on est presque à la fin du XVIIIe siècle. D'Alembert, alors déjà, vous cherchez dans l'encyclopédie énergie, ça y figure pas. On trouve un article de D'Alembert sous le mot énergétique. Alors, vous pouvez lire rapidement, mais c'est une définition qui finalement est très aristotélienne de l'énergie. Et continue la dernière phrase. Au reste, ce mot n'est plus en usage. Que faisons-nous ici? Alors, il faudra attendre pour que l'énergie gagne son droit de cité en physique. Il faudra attendre qu'un certain nombre d'ingénieurs un peu malins construisent ou conçoivent par nécessité des outils. Et l'un des outils, c'est la machine à vapeur, c'est-à-dire une machine qui crée un mouvement à partir de la vapeur. Alors la première machine à vapeur, donc j'ai un peu recherché et j'ai trouvé cette machine à vapeur au musée des arts et métiers à Paris. Il y a un petit exemplaire de cette machine à vapeur. C'est Thomas Newcomen. Donc lui est un ingénieur, travaillait dans les mines d'étain dans le Devon, qui était souvent inondé. Il paraît qu'il pleut beaucoup en Angleterre. Et son objectif, c'était de fabriquer une pompe qui évacue cette eau. Et il a conçu cette machine à vapeur. C'est pas sûr que c'est celle-là qui ait fonctionné en premier. Je crois que vous connaissez beaucoup mieux Monsieur James Watt, qui a beaucoup amélioré la machine de Newcomen et surtout l'a construite et l'a commercialisée. Et c'est ainsi que, à l'aube du 19e siècle, il y avait en Angleterre de l'ordre de 800 machines à vapeur qui étaient en fonction. Donc c'est le démarrage, c'est la révolution industrielle et la naissance ou la transformation de Homo sapiens en Homo industrialis, si ça existe. Bien. Alors, on a des machines à vapeur, les industriels les achètent, les utilisent et se rendent compte tout d'un coup qu'il faut mettre du charbon. Et charbon, ça coûte cher. Et donc, ils se disent, mais y a-t-il un moyen d'optimiser la machine pour qu'elle consomme peu de charbon pour produire beaucoup de travail? Ça, c'est le rêve de tout le monde, hein. Sauf si on remplace charbon par autre chose, ça marche aussi. Et c'est là que reviennent les physiciens en force. Ils se disent, il faut réfléchir à la chose. Et ils inventent une nouvelle discipline de la physique qui s'appelle la thermodynamique. La thermodynamique, en fait, c'est l'étude des phénomènes stationnaires et dynamiques de la chaleur. 18e siècle, 19e siècle, on utilise le mot chaleur pour dire énergie thermique. Et cette science va simplement relier matière d'où on extrait l'énergie pour créer du travail. Et le fondateur, le père fondateur de la thermodynamique, c'est Monsieur Lazare Carnot, en français, qui va donc donner naissance à la thermodynamique en s'appuyant, bien sûr, sur le fonctionnement de la machine à vapeur. Alors, je vais donner une petite explication de comment fonctionne une machine à vapeur. Bon, je vous fais pas l'affront en pensant que vous ignorez comment marche une machine à vapeur, mais je vais donner un point de vue de physicien. Donc, on commence par du charbon, qui est de la matière, qui, par combustion, va libérer de l'énergie. Alors, je dis entre parenthèses, c'est de l'énergie électromagnétique qui est stockée de façon potentielle dans le charbon. On va casser les liaisons électromagnétiques, donc c'est des processus chimiques qui créent de la chaleur. La chaleur est transmise à de l'eau dans un premier temps, puis à de la vapeur. Et cette chaleur, toujours entendez énergie thermique, est transportée dans un cylindre où elle actionne un piston. Vous allez me dire, c'est la fin de l'histoire. Non. Cette chaleur doit ensuite être échangée avec un corps ou une source froide qui est un condensateur, soit de l'eau, soit de l'air, peu importe. Mais il faut que cette chaleur soit transmise quelque part. Sans transmission de cette chaleur de la source froide vers une source froide, d'une source chaude vers une source froide, votre machine ne peut pas fonctionner. Ok? Une tondeuse à gazon, une voiture, ça marche exactement de la même façon. Si vous avez une source froide, une source chaude et une source froide, vous transportez la chaleur de la source chaude à la source froide, vous pouvez créer du travail. Thermodynamique, comme je vous l'ai dit, une théorie digne de ce nom, doit démarrer à partir d'un certain nombre de principes. Je vous ai expliqué ce qu'était un principe, quelque chose qui n'est pas démontrable. Quels sont les principes de la thermodynamique? Alors, curieusement, c'est comme pour Newton, il y en a trois. Chiffre 3, chiffre magique, hein, Bernard? Alors, je vais vous énoncer les trois principes, je vais parler des deux premiers, le troisième est plus anecdotique. Premier, conservation de l'énergie. Tiens, on retrouve conservation de l'énergie. Deuxième principe, l'entropie S ne peut que croître. Rassurez-vous, je vais vous parler de l'entropie. Troisième principe, à température nulle, c'est-à-dire au zéro absolu, l'entropie est nulle. Bon. Passons allons au premier principe. Premier principe, conservation de l'énergie. Alors, jusqu'à présent, je vous ai parlé de conservation d'énergie en mécanique. Il n'y a aucune raison qu'en thermodynamique, l'énergie se conserve. Voilà. Ceci dit, la conservation de l'énergie s'impose parce qu'on a toujours observé dans tous les phénomènes qui mettent en jeu la chaleur, qu'il y a toujours autant d'énergie après qu'il y en avait avant. Donc, tant qu'on n'a pas démontré le contraire, c'est un principe sur lequel on peut bâtir. Maintenant, on a deux sciences, la mécanique, la thermodynamique, deux énergies. Mais est-ce que ces deux énergies sont équivalentes ou non? Et c'est là qu'intervient, alors il s'agit cette fois-ci d'un brasseur. Alors les brasseurs, parfois, ils sont pleins d'idées. C'est un brasseur qui est passionné de physique et qui, un jour, soumet un article à l'Université de Cambridge, un article qu'il intitule sur l'équivalent de l'énergie mécanique et de l'énergie thermique. Il l'appelle pas comme ça, c'est le travail mécanique et la chaleur. Et il construit une expérience, alors, on peut pas faire plus simple, hein. C'est une expérience géniale, toute simple. D'un côté, vous réalisez un travail mécanique, c'est-à-dire un poids qui tombe d'une certaine hauteur, qui actionne une roue à aube qui est dans une enceinte calorifigée remplie d'eau. Il y met un thermomètre et il regarde. Lorsque je fais tomber mon poids, est-ce que la température de mon eau change? Et bien sûr, il trouve une augmentation de la température lorsque le poids tombe. Alors, la conclusion est, il existe un équivalent mécanique de la chaleur, alors attention, écoutez bien, qui est égal à 890 pieds-livres par British Thermal Unit. Vous savez faire la conversion, en fait. Donc, comme on pensait qu'il y avait deux énergies, l'énergie mécanique, c'était des joules, l'énergie thermique, des calories, et il trouve que 4,41 joules correspondent à une calorie. En d'autres termes, si vous faites tomber un corps de 441 grammes d'une hauteur de 1 mètre, l'énergie qui est rendue disponible est équivalente à l'énergie nécessaire pour augmenter 1 gramme d'eau d'une température de 1 degré Celsius. Pas génial ça? Donc, de nouveau, on commence à avoir quelque chose d'universel. Il n'y a pas deux énergies, une en mécanique, une en thermodynamique, chacune qui se conserve, mais l'énergie est équivalente. Et on sait transformer de l'énergie mécanique en énergie thermique. Bien, alors ça c'est la conclusion dans son article. L'expérience a montré que chaque fois que la force vive, force vive, ça revient, donc lisez énergie, est apparemment détruite, c'est-à-dire une fois que le poids est tombé par terre, un équivalent de cette force vive est produit, cet équivalent est la chaleur. Donc là, on a pas mal progressé, sauf que le mot énergie n'est pas encore bien installé dans le vocabulaire des scientifiques. Il faudra attendre une bonne cinquantaine d'années avant que l'énergie s'impose vraiment. Alors, que veut dire l'énergie s'impose? Ça veut dire qu'on est un terme qui s'appelle énergie, qui a une définition, et que cette définition soit le même dans toutes les langues dans lesquelles on parlait la physique à l'époque. En français, en anglais et en allemand. Et qui va s'y coller? Monsieur Max Planck. Alors Max Planck, je pense que vous le connaissez plus ou moins, c'est donc un physicien allemand qui avait commencé ses études, on appelle ça le troisième cycle, ses études, il a soumis une thèse sur la thermodynamique et pendant toute sa vie, son dada, c'était de montrer que l'entropie n'est pas un principe premier, mais c'est un principe qu'on peut dériver d'autre chose. Il n'y est pas arrivé, mais c'est un dada. Donc c'est un mec qui ressassait continuellement ces histoires de thermodynamique. L'entropie, vous en faites pas, j'y reviendrai. Et donc, il soutient sa thèse, son superviseur, Helmholtz, même pas sûr qu'il ait lu la thèse. Bon, il, ça passe un peu à côté. Il galère un peu. Et de façon surprenante, et aussi grâce au hasard, il obtient un poste à la prestigieuse université de Berlin, dont Helmholtz était le directeur. Donc, il est professeur de physique à Berlin et il va publier un petit bouquin. Un petit bouquin, je dis petit bouquin, c'est 300 pages, hein, qui va s'appeler « Le principe de la conservation de l'énergie ». Bingo. Il a prononcé le mot « énergie ». Et il semblerait que ce titre est un peu un pied de nez qu'il fait à son patron, Helmholtz, qui, 40 ans avant, avait publié un livre qui s'appelait « Le principe de la conservation der Kraft ». Comment vous traduisez Kraft ? Force, énergie, force, puissance. Donc c'était Planck qui était là pour dire « Bon, moi je suis un petit jeune, mais c'est ça qu'il faut dire ». Alors qu'est-ce qu'il pose ? Alors, il élabore deux principes essentiel, élémentaire, c'est la conservation de la masse. Je l'ai pas nommé, mais vous l'avez peut-être remarqué que Madame Duchâtelet avait dans une petite phrase cité la conservation de la masse. Deux principes, conservation de la masse, conservation de l'énergie. Deux principes premiers. Toute théorie doit partir ou doit intégrer la conservation de la masse et la conservation de l'énergie, que ce soit les théories existantes ou toute nouvelle théorie qui viendrait poindre son nez, les théories dont il ignorait tout, devrait en premier lieu s'assurer qu'elle inclut conservation de la masse et conservation de l'énergie. Donc deux principes très forts. C'est d'autant plus curieux que vous savez aussi que, bon là je fais une petite digression, que Max Planck est le père malgré lui de la mécanique quantique, et que dans les années 1922, un célèbre physicien, Niels Bohr, avait suggéré qu'au niveau atomique, la masse, l'énergie n'était pas conservée. Ce qui avait fait un branle-bas de combat d'un certain nombre, dont monsieur Planck. Bon, je vous réfère à mon cours d'il y a soit l'année dernière ou soit deux ans, c'est pour vous dire que quel que soit le domaine de physique, quelle que soit la théorie que dorénavant on doit prendre en compte, il faut que la masse soit conservée et l'énergie soit conservée. Alors, je vais rien vous cacher, conservation de la masse, ça marche plus. On verra ça la semaine prochaine. Conservation de l'énergie, principe premier. Dans quelques secondes, je vais vous dire que c'est pas un principe premier. Mais, pour garder un peu de suspense, hein. Alors, comment définit-il l'énergie? L'énergie est une quantité que l'on peut associer à tout système et qui est fonction des différents paramètres qui caractérisent l'état de ce système à un instant donné. Elle dépend en particulier, blablabla. Et à la fin, sa propriété la plus fondamentale est de rester constante au cours du temps lorsque le système est isolé. Là, quasiment tout est dit. C'est une quantité qui caractérise un système et surtout, c'est une quantité qui se conserve. Donc, conservation de la quantité de l'énergie est quelque chose d'essentiel et vous pouvez vous placer dans n'importe quel système, dans un atome, dans l'univers, l'énergie est toujours conservée. Alors, on cherche toujours à simplifier, donc moi je retiendrai simplement une quantité que l'on peut associer à tout système et une quantité qui se conserve. Alors, on peut faire plus bref. Il y en a un qui a osé, c'est Monsieur Poincaré. Alors, Poincaré a écrit un bouquin très intéressant, La science et l'hypothèse, où il avait des difficultés pour définir l'énergie. Alors, ce qu'il en dit de l'énergie, c'est ça. Il y a quelque chose qui demeure constant. Et je trouve que c'est une superbe définition. Il y a quelque chose, pourquoi avoir besoin de le définir, et ça se conserve, qui reste constant. Bon, c'est Monsieur Poincaré. Alors vous allez me dire, mais si l'énergie reste constante, si on a toujours autant après un processus qu'avant le processus, pourquoi ne peut-on pas indéfiniment utiliser l'énergie? Pourquoi y aurait-il des problèmes d'énergie? Ah, c'est là qu'intervient l'entropie. Alors l'entropie est un concept qui a été créé par Monsieur Clausius. Et son objectif, c'était en fait d'expliquer le deuxième principe de la thermodynamique. Donc principe, on ne peut pas démontrer, on observe. Il est impossible de faire passer de la chaleur d'un corps à basse température vers un corps à haute température sans qu'il n'y ait transformation concomitante quelque part ailleurs. D'autres termes, au petit déjeuner, vous versez votre café dans le bol, le café se refroidit. Jamais personne n'a vu le café instantanément se réchauffer dans le bol. Bien sûr, au micro-ondes, c'est autre chose. De façon plus dramatique, un glaçon dans votre apéritif préféré va fondre. Vous n'aurez jamais vu un verre d'apéritif où tout d'un coup, un glaçon va se former. Sauf si vous le mettez au congélateur, mais ça c'est encore une autre histoire. Donc en d'autres termes, il y a des processus de physique d'échange de chaleur qui sont irréversibles. Ça marche dans un sens et ça marche pas dans l'autre sens. Donc ça, c'est une constatation. Et donc, Clausius s'est demandé, mais comment la nature se débrouille pour rendre les phénomènes irréversibles? Ben, il a inventé ce concept d'entropie. L'origine du mot, c'est bien sûr le grec, et qui veut dire c'est l'action de se transformer. Donc ce qu'il voulait dire, en fait, c'est j'introduis quelque chose qui ne peut se transformer en travail. Ce que dit Clausius, c'est que dans tout processus, tout système est caractérisé par une entropie, et dans tout processus, l'entropie ne peut qu'augmenter. L'entropie qui diminue, ce serait le problème, le processus inverse, qui est impossible. Donc il n'existe dans la nature aucun processus pour lequel l'entropie décroît. Donc l'entropie croît toujours. Alors, le deuxième principe, c'est certainement un des principes qui a été beaucoup discuté dans la physique. La formulation a beaucoup changé dans le temps. Et donc, je vais quand même revenir au temps présent. Aujourd'hui, l'entropie peut se définir de la façon suivante. C'est de nouveau une grandeur fondamentale. On ne peut pas la dessiner. C'est pas un objet qui caractérise la capacité d'un système physique à subir des transformations spontanées. La glace qui fond dans mon verre, c'est un processus spontané. Plus petite est la valeur de l'entropie, plus grande est la capacité du système à se transformer. Donc regardez bien cette définition, et du coup on va pouvoir reformuler le deuxième principe de la thermodynamique qui dit que toute transformation d'énergie, j'ouvre une parenthèse, transformation d'énergie veut dire on garde la même quantité d'énergie, donc toute transformation d'énergie ne peut se faire qu'en augmentant l'entropie, c'est-à-dire en modifiant la qualité de l'énergie, la qualité à se transformer davantage. D'autres termes, plus l'énergie se transforme, moins elle est apte à se transformer davantage. Donc la qualité baisse au fur et à mesure que vous transformez l'énergie. Et ceci explique pourquoi l'énergie, à un moment donné, ne peut plus être transformée davantage parce que l'entropie aura augmenté tellement qu'il n'y a plus place pour l'entropie d'augmenter en plus. Et Une fois que j'ai dit ça, est-ce que les processus sont vraiment irréversibles? Est-ce qu'il ne peut pas avoir une apparition spontanée d'un glaçon dans mon verre d'apéritif? Vous en pensez quoi? Personne n'a jamais observé ça. Et pourtant, il y a un physicien autrichien, M. Boltzmann, il dit que c'est tout à fait possible. Boltzmann nous dit, donc c'est lui qui a développé la physique statistique, l'interprétation statistique de la thermodynamique, et il nous dit que tous les états d'un système ont exactement la même probabilité. C'est-à-dire, vous pouvez aller d'un état vers un autre avec la même probabilité, quel que soit l'état final. Simplement, il dit que la complexité d'un système, il y a tellement d'états possibles que voir dans un temps raisonnable un glaçon se former dans ma boisson, il y a peu de chances de le voir. Mais la probabilité qu'il apparaisse est la même que la probabilité qu'il fonde. C'est comme le loto. Hein. Toutes les combinaisons ont la même probabilité. Et pourtant, si vous jouez au loto, jamais vous jouerez 1, 2, 3, 4, 5. Pourtant, ça a la même probabilité que n'importe quelle autre combinaison. Simplement, il y a 2 millions de combinaisons, donc il faut en faire des tirages, mais peut-être qu'un jour, on tombera sur 1, 2, 3, 4, 5. Donc, M. Boltzmann dit ça de façon très simple, dans une superbe équation. Alors celle-là, je peux vous dire qu'elle va être bavarde. Hein. Alors si un jour, Thierry, tu veux programmer quelqu'un pour faire bavarder cette équation, elle est superbe. Donc j'en dirai pas plus parce que ça va nous emmener très loin. Elle dit simplement que l'entropie, c'est fonction du nombre d'états possibles. W, c'est le nombre d'états possibles. Bon, passons. Alors que faut-il retenir jusqu'à présent? La quantité d'énergie se conserve, mais la qualité de l'énergie se dégrade. Alors, je vais donner un petit exemple pour avoir les choses un peu claires. Il y a très longtemps, on est les 4 milliards d'années, un peu plus, 5 milliards d'années peut-être, il y avait près de chez nous un nuage d'hydrogène qui, sous l'effet de la gravitation, s'est effondré. Un effondrement, ça veut dire la pression augmente, donc c'est l'effet pompe à vélo, la pression augmente, la pompe à vélo chauffe, donc ce nuage d'hydrogène commence à chauffer et continue à s'effondrer jusqu'à un moment donné de former une étoile, peut-être pas n'importe quelle étoile, on va l'appeler le soleil, et la température continue à augmenter et va créer les conditions favorables pour que cette énergie thermique soit transformé en énergie nucléaire. La fusion des atomes d'hydrogène et d'hélium devient possible. Et cette fusion, donc je fais un très gros raccourci, donne in fine un rayonnement électromagnétique, c'est le rayon de soleil qui nous arrive. Un rayon de soleil va être capté par la Terre, et cette énergie électromagnétique, par exemple, va être absorbé par une feuille d'épinard qui va transformer cette énergie électromagnétique en énergie chimique sous forme de glucides. Vous arrivez, vous cueillez l'épinard, vous le mangez. Vous transformez votre métabolisme va transformer cette énergie chimique en énergie nécessaire pour faire fonctionner le corps et en particulier pour faire fonctionner le cerveau. Vous êtes tous assis ici avec le cerveau qui commence à chauffer et je vois un rayonnement électromagnétique infrarouge rayonner de votre corps, rayonnement infrarouge qui va contribuer au rayonnement de la Terre et va se perdre en l'univers parce que le rayonnement infrarouge a une entropie tellement grande qu'il ne sert plus à grand chose, il ne peut plus être transformé en autre chose. Donc si aujourd'hui vous arrivez à suivre ce cours de physique avec votre cerveau, c'est grâce à l'énergie gravitationnelle de ce nuage d'hydrogène il y a 4 milliards d'années. Extraordinaire. Donc pendant tout ce processus, l'énergie n'a pas été perdue, elle a été transformée et sa qualité a été dégradé. Bien. Alors, là, on va rentrer dans le dur, parce que là, des rayonnements infrarouges, ça va rayonner. Hein. Alors, ça, c'est ma partie révision de l'année dernière. Donc, je vous ai parlé de conservation d'énergie, principes premiers, etc. Ce que je vous ai dit l'année dernière, c'est qu'il y a des principes encore plus premiers, donc les vrais principes premiers, c'est les symétries de l'univers qui ne changent pas les lois de la physique. C'est-à-dire les lois de la physique sont immuablement les mêmes et ne changent pas avec le temps. Ce qui change, c'est les conditions dans lesquelles les lois de la physique s'expriment. Et je vous avais donné une liste de trois symétries de l'univers, l'homogénéité de l'espace, l'espace est pareil partout, l'isotropie, vous regardez à droite, à gauche, devant, derrière, l'univers est toujours le même, et l'homogénéité du temps, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. L'homogénéité du temps implique que les lois de la physique sont invariantes par translation dans le temps. Ce que ça veut dire, je fais une mesure aujourd'hui et je la fais demain, j'obtiendrai les mêmes résultats demain que celui que j'ai obtenu aujourd'hui. Si je le fais dans 1000 ans, j'aurai encore les mêmes résultats. Si j'avais pu faire la mesure il y a 13 milliards d'années, j'aurais encore obtenu le même résultat. C'est l'invariance par translation dans le temps qui est une conséquence de l'homogénéité du temps de l'univers. Ça veut dire ma montre dans l'univers fonctionne n'importe où exactement de la même façon. Alors, je vous avais aussi parlé de Madame Noether, une physicienne, mathématicienne, pardon, allemande, tout à fait remarquable, qui a démontré un théorème, alors tout à fait surprenant. Elle dit, chaque symétrie pour être respectée impose la conservation d'une grandeur. Bon. Je vous ai montré avant que les lois de la physique étaient invariantes par rapport au temps. Okay. Et l'invariance par rapport au temps va impliquer la conservation d'une grandeur, et cette grandeur, c'est l'énergie. Donc le fait que mes montres marchent exactement de la même façon dans tout l'univers implique que l'énergie est conservée. Alors ça va vous paraître bizarre, enfin, évident, bizarre. Alors on va démontrer la... Non, on va pas le démontrer. Horriblement complexe, c'est les mathématiques de haut vol. Mais je vais vous donner un petit exemple qui vous montre de la pertinence de la chose. Donc, on va faire une démonstration, ce qu'on appelle une démonstration par l'absurde. C'est-à-dire, on commence avec une hypothèse fausse et on va démontrer qu'on va arriver à une conclusion absurde. Alors, on va supposer que l'interaction gravitationnelle change avec le temps. C'est-à-dire, le matin, l'interaction gravitationnelle a une certaine valeur. L'après-midi, sa valeur est le double. Pas par, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le matin, on va prendre un poids, on va le soulever, on va le mettre sur une plateforme et on va dépenser une énergie qui est égale à la masse de mon objet multipliée par la hauteur à laquelle je soulève l'objet et multipliée par la force de l'interaction gravitationnelle. OK? Je laisse mon objet sur la plateforme, je reviens l'après-midi, je le fais tomber. Qu'est-ce que je retrouve comme énergie? La masse, qui n'a pas changé. La hauteur, je vais en sens inverse, mais la hauteur n'a pas changé. Mais l'interaction gravitationnelle est multipliée par deux. Du coup, j'ai deux fois plus d'énergie l'après-midi que le matin. Si c'était vrai, je crois qu'on serait les rois du pétrole, là. Donc, vous voyez, j'ai une conclusion qui est fausse, qui est contraire à l'observation, donc mon hypothèse de départ doit être fausse. Mon hypothèse de départ était que l'interaction gravitationnelle n'est pas invariante par symétrie dans le temps. Donc c'est ce qu'a démontré Madame Noether. Bien, on a pas mal progressé là. Et on va encore faire un petit coup. Ah, oui, celle-là, elle est bien. Je vais essayer d'aller en arrière. Donc, je répète ce que j'ai dit, il y a une grandeur caractéristique qui se transforme et s'échange en conservant la quantité constante et en dégradant la qualité. Maintenant, on va poser trois questions. L'énergie est-elle continue? Première question. Je crois qu'on a le temps de répondre aux trois. Deuxième question. Quelle est l'énergie de l'univers? Troisième question. Y a-t-il de l'énergie dans le vide? Ça commence à être intéressant, hein? Alors, Leibniz nous disait que la nature ne procède pas par saut. C'est-à-dire, dans la nature, tous les processus sont continus. En particulier, l'énergie, on peut avoir de l'énergie en n'importe quelle quantité. C'est ce que nous dit notre expérience de la vie courante. Et pourtant, M. Max Planck, en 1900, donc, qu'est-ce qu'il cherchait à trouver? Il étudiait, donc toujours dans son dada de thermodynamique et du deuxième principe de la thermodynamique, il étudiait comment le rayonnement et la matière échangent leur énergie. Et pour cela, il y avait un outil qui était très intéressant, qui s'appelait le corps noir. Pour ça, il faut revenir à mon cours d'il y a 2 ans. Le corps noir, c'est un outil qui permet d'étudier l'échange d'énergie entre le rayonnement électromagnétique et la matière, c'est-à-dire le rayonnement qui est à l'intérieur de mon, on va appeler ça un four, et les parois du four. Et donc, c'était une très longue histoire qui a perturbé beaucoup de gens à l'époque. Et Max Planck, il trouve la formule de ce que doit être ce rayonnement émis par ce corps noir. Et il doit, pour que ça marche bien, donc il connaissait la formule et qu'il a trouvé lui-même, et il doit expliquer avec de la physique d'où vient cette formule. Et il se trouve qu'il doit considérer que les échanges d'énergie entre rayonnement et matière ne peuvent se faire que par des petits paquets. On ne peut échanger que un paquet d'énergie ou un multiple de ce paquet d'énergie. On peut échanger un paquet, 2 paquets, 3 paquets, etc. Mais on ne peut pas échanger de demi-paquet. Alors, l'exemple que j'avais donné il y a 2 ans, c'est l'énergie à l'économie du beurre. Donc, le beurre, on sait qu'on peut trouver du beurre sous forme de mottes, des mottes de beurre. Et une motte de beurre, vous prenez n'importe quelle quantité de beurre, pas de problème. Mais quand vous allez au supermarché, le beurre, vous achetez 125 grammes, 250 grammes, etc. Vous ne trouvez pas de 127 grammes à 35 de beurre. Donc l'échange de beurre au supermarché ne se fait que par paquet. C'est exactement ce que dit Planck. L'échange d'énergie se fait par des paquets. Bien sûr, ce paquet sera infiniment petit, très petit, donc totalement invisible dans notre vie courante. C'est pour ça que nous avons l'impression que l'énergie est continue. L'histoire continue et continue avec notre ami Monsieur Einstein. Il dit « Ah, Planck, il s'est un peu planté là ». C'est pas les échanges qui sont discontinus, c'est l'énergie elle-même qui est discontinue. Donc l'énergie vient sous forme de paquets. Il a appelé ça le Licht Quantum, qui deviendra plus tard le photon. Alors pour revenir à l'économie du beurre, c'est dire, c'est pas que vous au supermarché, parce qu'il y a que des paquets de 125 grammes ou 250 grammes, etc., c'est parce que le beurre n'existe pas en mottes. Le beurre n'existe que sous forme de 125 grammes. Donc ça, c'est l'énorme message que nous envoie Einstein. l'énergie est discontinue. Deuxième question. De quoi est fait l'énergie de l'univers? Alors, en 1915, Einstein a publié son article, que moi je pense est son article majeur, qui est où il présente la relativité générale. Relativité générale, c'est un exercice où il tente d'expliquer comment la matière, j'aime pas trop le mot, on va l'utiliser quand même, déforme l'espace-temps, et d'un autre côté, comment la matière doit évoluer dans un espace-temps déformé. Donc, il a une équation qui inclut espace, temps, matière. Et puis, il y a un physicien russe qui s'appelle Friedman qui trouve une solution d'univers à cette équation, c'est-à-dire il modélise l'univers, il met dans l'équation et il regarde comment ça doit marcher. Cet univers est modélisé d'une façon extrêmement simple. Je dis simple, je fais un peu fier. Mais... Bon, il assimile l'univers à un gaz parfait, c'est-à-dire qu'il y a une relation bien connue entre la pression et la température ou la densité d'énergie. Donc c'est un truc très très simple, une pression positive. Et il dit simplement que si je prends ce modèle d'univers, je mets dans les équations d'Einstein, et d'ailleurs je peux faire ce que je veux, je vais trouver que l'univers est en expansion. Donc vous savez qu'Einstein, lui, pour des raisons métaphysiques, disons, voulait que l'univers soit stable. Bon. Donc Friedman trouve que l'univers est en expansion, et quelques années plus tard, Georges Lemaître, et lui dit oui, il a tout à fait raison. L'univers est en expansion, et vous savez que encore un peu plus tard, un physicien américain, Monsieur Hubble, observe des galaxies très éloignées, et il constate que les galaxies éloignées s'éloignent les unes des autres, en particulier de la nôtre, et s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont éloignées. Mettez ces deux choses ensemble, une théorie, une preuve expérimentale, et pof, ça y est, la preuve de l'expansion de l'univers est confirmée. Mais c'est pas ça où je voulais en venir. Donc, l'univers entre en expansion, ne me demandez pas d'où vient cette énergie d'expansion, parce que j'en sais rien, mais c'est de la matière qui est en expansion. La matière est soumise à l'interaction gravitationnelle. L'interaction gravitationnelle attire la matière, donc on s'attend à ce qu'on ait une forme d'explosion, et cette expansion doit ralentir à un moment donné sous l'effet de la gravitation et éventuellement prendre le chemin inverse et avoir tout qui s'effondre. Puis arrive dans les années, je pense que c'est dans les années 80, une observation qui est remarquable à plusieurs points de vue, et remarquable d'abord au résultat de l'expérience, mais aussi à la prouesse technologique pour avoir ces mesures. Ce que vous voyez ici, c'est en axe vertical le taux d'expansion de l'univers. Donc un taux qui va d'un taux faible, et plus vous montez, plus l'expansion, le taux d'expansion est élevé. Et en axe horizontal, vous avez le temps, ou si vous voulez, l'âge de l'univers. Donc zéro, ça veut dire nous sommes aujourd'hui. Ce qu'il mesure, c'est le point ici. Il dit, voilà, quelle est l'expansion de l'univers telle que je l'observe aujourd'hui. Hubble avait un télescope qui, bien que c'était le télescope le plus performant de son époque, la technologie a énormément évolué, on pouvait voir de plus en plus loin les galaxies, et on pouvait de mieux en mieux déterminer quelle était la distance des galaxies à laquelle elles se trouvent par rapport à nous. Plus une galaxie est loin, plus on remonte dans le temps, puisque la lumière doit mettre un certain temps pour arriver à nous. Et il mesure tous les points que vous voyez ici, et en particulier ce point rouge. Et vous avez une courbe, donc la courbe, c'est vous mettez les bons ingrédients dans les équations d'Einstein, la relativité générale, vous obtenez cette courbe. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Quand on remonte dans le temps, le taux d'expansion est bien ralenti comme on s'y attend. Vous voyez que le taux d'expansion diminue. Et soudain, autour de 8 milliards d'années, donc ça fait un certain temps, cette expansion semble ralentir et même accélérer. Et c'est là où on se dit, que faire? On n'a que de la matière, on n'a que l'interaction gravitationnelle. Comment peut-on expliquer que l'expansion prenne le chemin inverse? Et c'est là qu'on invente un objet qui est ni de l'énergie et qui est ni noir, mais qui s'appelle l'énergie noire. Ça, c'est encore un truc de physicien. C'est pas de l'énergie, c'est pas noir, parce que si c'était noir, ça serait absorbé par quelque chose. C'est totalement transparent. C'est quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, mais dont le rôle est de ralentir, de réaccélérer l'expansion de l'univers. Alors, si vous voulez le terme technique, on introduit dans les équations d'Einstein un nouveau fluide qui est aussi un gaz parfait, donc avec ses relations densité d'énergie et pression, mais on dit que la pression est négative et très grande, et c'est ce qui va causer l'accélération de l'expansion. Donc voilà pour l'énergie noire, qui est ni de l'énergie et qui est ni noire. Donc un dernier mot pour l'énergie du vide, 2 minutes. De nouveau, on revient à Monsieur Lemaître et à mon cours, ça c'est le cours de l'année dernière, je vous avais expliqué que le vide, c'est ce qui restait quand on a tout enlevé. Sauf le vide. Alors, quand on a tout enlevé, c'est-à-dire que vous enlevez toute matière, toutes les particules, tout quark, tout photon, tout. Et qu'est-ce qui reste? Alors, si vous vous rappelez bien du cours de l'année dernière, il faudra réviser. Ce qui reste, c'est les champs quantiques. Donc, vous vous rappelez, un champ quantique, c'est le potentiel de création des particules. Donc, vous allez trouver un champ quantique dans leur état fondamental. Il n'y a pas de particules, il n'y a rien, c'est triste. Et pourtant, les champs quantiques ont une énergie, même quand il n'y a pas de particules. Et l'abbé Lemaître, il dit, ben super, cette énergie du vide a exactement, enfin ce vide avec ce vide rempli de champs quantiques, a exactement les propriétés qui sont nécessaires pour expliquer cette expansion, c'est-à-dire une pression négative. Et très bien, on est sauvé, on a compris l'énergie noire. C'est là que, bien sûr, solution très intéressante, et les physiciens se mettent à calculer, quelle est la valeur de l'énergie du vide? 10 puissance 113 joules par mètre cube. Vous savez combien d'énergie noire il faut pour expliquer l'expansion de l'univers? 1 nanojoule par mètre cube. Donc, il y a quelque chose qui marche pas. Et ce quelque chose qui marche pas, ben, j'en sais trop rien. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'univers a été, si les équations de la relativité générale sont bonnes, bien sûr, a été ajusté avec une précision extrême pour que nous soyons là à nous demander ce qu'est l'univers. Et à partir de ce cours, je vais vous donner faire des devoirs pour la semaine prochaine. Donc, vous pouvez réfléchir sur 3 propositions. Premièrement, le mécano qui a ajusté les constantes de l'univers, c'est un bricolo, il s'y connaît pas trop, il a essayé plein d'ajustements, et tout d'un coup, pouf, il tombe sur le bon ajustement et nous voilà. Question, est-ce que le bricolo, là, le mécano de la générale, est-ce qu'il s'est arrêté là ou il continue à bricoler? Et Qu'est-il advenu de tous les brouillons d'univers ? Deuxième question. Deuxième option. Le mécano est absolument génial et connaissait a priori. C'était inscrit quelque part, comme les lois de la physique. C'était inscrit quelque part. L'ajustement exact pour que l'univers existe et pour que nous, pour qu'il existe un jour une intelligence qui s'interroge sur la raison de l'existence de l'univers, j'ai cet ajustement, je le mets, je me repose, c'est fini. Troisième option, ben, notre intelligence est encore insuffisante et on ne sait pas tout et il nous manque quelque chose. Donc, vous me rendrez les copies la semaine prochaine. Merci.
Bien, tu prends les réponses donc sous forme papier, sous forme de mail,
internet, fax, téléphone.
Fax, pigeon voyageur, très bien. Y a-t-il des questions ? Oui, tout là-haut, allez-y. Et je répéterai la question en même temps.
Ce que je veux
donc, dire, il y a une question sur, je répète juste, il y a une question sur l'homogénéité du temps. Ouais. Voilà. Vas-y.
Ce que je veux dire par homogénéité du temps, dans les mêmes conditions, le temps est le même. Donc, si vous êtes sur une Terre autour d'une étoile Sirius quelconque, la montre fonctionne de la même façon. Mais votre remarque était tout à fait correcte.
D'autres questions? Oui, allez-y, monsieur.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est passé entre Aristote et
Galilée ? Vous savez comment les écrits d'Aristote sont arrivés en Europe ? Par les Arabes. Donc je pense que les Arabes se sont beaucoup inspirés pour leur physique d'Aristote. Mais bon, c'est pas une chose que j'ai étudiée en détail. Et je pense que ce serait vraiment intéressant, surtout de voir du côté de la Chine, par exemple, où l'influence d'Aristote était nulle. Oui, non, mais tout à fait.
Pardon. D'autres questions?
Merci.
Alors, on est preneur aussi de questions que vous pouvez nous envoyer par mail. Si vous n'osez pas prendre la parole, physiquepourtous@unistra.fr, on se fera un plaisir de pas forcément y répondre tout de suite. Mais dès qu'on aura réfléchi aux questions que vous pouvez poser, des fois on reçoit des questions qui sont un peu alambiquées, compliquées. Des fois les questions ne sont pas si faciles que ça à traiter.
C'est le mécano de la générale.
Très bien. Ben, s'il n'y a pas de questions, rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode. Une dernière question ?
Non. C'est une courbe théorique. C'est-à-dire, la courbe théorique, vous prenez votre équation, les équations de la relativité générale, vous avez votre modèle d'univers, vous mettez ce qu'il faut de gravité, vous mettez ce qu'il faut d'énergie noire, et vous trouvez une courbe. Et bien sûr, vous ajustez les deux pour qu'elles passent au plus proche, des points. Donc c'est pas un fit à travers les points. Hein.
Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, même orateur.